Bonjour, au micro Idrissa Seloulia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le virus du COVID-19 s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide, ainsi que sous les rayons du soleil, selon une étude préliminaire américaine présentée hier à la Maison-Blanche par un haut responsable de la sécurité intérieure. Notre observation la plus frappante à ce jour, a dit Bill Bryan, c'est l'effet puissant que semble avoir la lumière du soleil pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que dans l'air. Des millions de musulmans vont vivre cloîtrés le Ramadan qui commence ce vendredi pour l'Arabie saoudite et la plupart des pays arabes, et ce en raison de la pandémie de coronavirus qui a fait au moins 186 000 morts dans le monde et pour laquelle l'Union européenne temporise dans sa réponse économique. Le Congrès américain a pour sa part adopté hier un nouveau plan de 483 milliards de dollars d'aide à l'économie américaine et aux hôpitaux. Les États-Unis ont enregistré 49 759 morts sur 866 646 cas, selon l'Université Johns Hopkins, ainsi que 26 millions de chômeurs. Et le débat s'échauffe sur le confinement. Malgré les appels à la prudence, certains États tels que le Texas, le Vermont ou la Géorgie ont décidé de rouvrir une partie des commerces. Le président Trump s'est dit mécontent hier du gouverneur de la Géorgie. La pandémie a tué au moins 186 462 personnes dans le monde, dont près des deux tiers en Europe depuis son apparition en décembre en Chine. Selon l'AFP, plus de 2 675 050 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires. Après les États-Unis, suivent l'Italie, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni. La pandémie de COVID-19 pourrait perturber la distribution de moustiquaires et des médicaments contre le paludisme et entraîner un doublement du nombre de morts, a prévenu l'OMC appelant l'Afrique subsaharienne à intensifier la prévention. Et puis l'antipaludéen chloroquine est l'un de ses dérivés, promu notamment par le président américain Donald Trump et par le professeur français Didier Raoul comme remède, ont des effets secondaires graves, a averti jeudi l'Agence européenne des médicaments. Dans le reste de l'actualité, britanniques et américains prolongent pour l'instant leur soutien au Sahel à l'opération anti-djihadiste française Barkhane en maintenant leurs moyens sur place, a affirmé aujourd'hui la ministre française des armées Florence Parly dans un entretien au quotidien régional Sud-Ouest. Le Pentagone avait ouvertement envisagé ces derniers mois de réduire drastiquement sa présence en Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, l'UPC, principal parti d'opposition, a alerté hier sur un risque d'effondrement, sans que le gouvernement n'y apporte une solution, de la région du Sahel, épicentre de la crise sécuritaire et humanitaire menacée par des groupes djihadistes, selon le vice-président de l'UPC, Amadou Diendioja Diko. Mercredi, le porte-parole du gouvernement a assuré qu'un convoi avait ravitaillé Djibo sous escorte militaire. Au Mali, le parti présidentiel était en tête des résultats des législatives de mars-avril avec 43 députés sur 147 à l'Assemblée nationale pour une participation de plus de 35% selon les chiffres officiels provisoires publiés jeudi. Le RPM est suivi d'un autre parti de la mouvance présidentielle, l'ADEMA, qui obtient 22 députés. Vient ensuite l'URD, formation de l'ex-premier ministre et principal opposant Soumaïla Cissé avec 19 députés. M. Cissé, qui figure parmi les députés élus, a été enlevé le 25 mars alors qu'il battait campagne dans le centre du Mali. En RDC, plusieurs dizaines de policiers ont encerclé hier à Kinshasa la résidence de Mwanda Namsemi, gourou du mouvement politico-sectaire Bundu dia Congo, à l'origine de plusieurs mouvements meurtriers ces dernières semaines dans le sud-ouest du pays. Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique, Washington, D.C.
suite de nos informations, la CEDEAO a annoncé hier reconnaître Umaro Sissoko Embalo comme président de la Guinée-Bissau après 4 mois de blocage dans ce petit pays ouest-africain abonné aux crises politiques et qui abadou.
Domingo Simoes Pereira, chef du PAIGC, parti historique et majoritaire au Parlement, n'a cessé de contester sa victoire au second tour de la présidentielle du 29 décembre. C'est finalement son adversaire, Umaro Sissoko Embalo, qui a été reconnu par la CEDEAO. Les 15 chefs d'État demandent dans son communiqué à Monsieur Embalo de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai 2020. Ancien Premier ministre issu de l'opposition, Sissoko Embalo a été déclaré vainqueur à plusieurs reprises par la Commission nationale électorale. Il s'est autoproclamé président et s'est fait investir le 27 février. Il s'est ensuite installé au palais présidentiel et a nommé un gouvernement après avoir limogé le Premier ministre Aristide Gomes du PAIGC. Majoritaire au Parlement. La Guinée-Bissau a connu depuis son indépendance en 1974 une succession de coups d'État et les pays africains sont souvent divisés pour sortir ce pays des impasses politiques récurrentes.
Au Mozambique, la RENAMO, principal parti d'opposition, a accusé les forces de sécurité d'avoir tué 14 civils dans la province du nord de Cabo Delgado. Cette région est fréquemment attaquée par des djihadistes. Eric Manirakiza.
La RENAMO cite un des incidents du 12 avril. Selon l'ancien mouvement rebelle, les forces de sécurité ont intercepté un bateau transportant des personnes et des marchandises de Pemba à l'île d'Ibo au large de la côte nord. Son porte-parole, José Manteigas, indique qu'après des interrogatoires, elles ont tiré sur tous les occupants, faisant 8 morts. Le 16 avril, des soldats ont ouvert le feu sur un autre bateau naviguant de Palma à Pemba alors qu'il traversait l'île d'Ibo. Et 2 des 3 personnes à bord ont été tuées par balle, a-t-il affirmé. Selon M. Manteigas, des soldats ont aussi tiré sur 4 personnes dans le district de Palma à une date qu'il n'a pas précisée. Le porte-parole de la police, Orlando Mudumane, a déclaré ne pas avoir eu connaissance des accusations de la RENAMO et s'est refusé à tout commentaire. La RENAMO a appelé le président Philippe Nyusi à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à ces meurtres barbares. Depuis octobre 2017, des groupes djihadistes terrorisent les communautés du Cabo Delgado, une région à majorité musulmane. Maputo a déployé des soldats et des unités spéciales de police qui n'ont pas réussi jusque-là à contenir l'insurrection.
Le coordonnateur spécial de l'ONU pour le Proche-Orient, Nikolaï Mladenov, a mis en garde hier contre une annexion par Israël de zones en Cisjordanie, ce qui représenterait, a-t-il dit, un coup dévastateur à la solution à 2 États préconisée par la communauté internationale. Le point avec Jacques Aristide.
Lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité, le responsable de l'ONU a relevé qu'une telle perspective dangereuse constituerait une violation grave du droit international, fermerait la porte à un renouvellement des pourparlers et menacerait les efforts visant à faire avancer la paix régionale. Nikolaï Mladenov appelle les dirigeants israéliens et palestiniens à rejeter les mouvements unilatéraux qui ne feront, dit-il, qu'approfondir le fossé entre les deux peuples et saper les chances de paix. Mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, s'en était remis à l'État hébreu pour décider en dernier ressort d'annexer ou non des pans entiers de la Cisjordanie occupée par Israël. L'annexion des colonies israéliennes et de la vallée du Jourdain a été proposée dans un plan de paix de Donald Trump rejeté par les Palestiniens. Israël s'est accordé lundi pour avoir un gouvernement d'union qui prévoit la souveraineté d'Israël dans les implantations en Judée et Samarie, expression utilisée pour évoquer l'annexion des colonies et de régions en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu.
La Minute Éco et Kiabodou.
Avec l'effondrement des prix du pétrole, le Congo-Brazzaville anticipe une récession de moins 9% en 2021. Le projet de budget reposait sur l'hypothèse d'un prix du baril à 25 $ américains contre 55 $ dans le budget initial. Le baril de pétrole est à son niveau le plus bas historiquement, alors que le pétrole représente pour le Congo un tiers du PIB et deux tiers des recettes budgétaires et 85% des recettes d'exportation. La République démocratique du Congo table, elle, sur une récession de moins 2,2% en raison de la chute des exportations des minerais. Le conseil d'administration du FMI a annoncé le versement d'une aide d'urgence de 363 millions de dollars en faveur de la RDC pour faire face aux effets de l'épidémie de coronavirus. Par ailleurs, le FMI décaisse 38 millions de dollars pour aider la RCA à répondre à ses besoins urgents en matière de balance des paiements et contenir la propagation du Covid-19. Le conseil d'administration du FMI a approuvé le 20 avril un décaissement d'urgence d'un montant de 27,85 millions de francs CFA de droits de tirage spéciaux, soit environ l'équivalent de 38 millions de dollars pour la République centrafricaine. La Belgique accorde un prêt sans intérêt de 5 milliards de francs CFA au Niger pour la réhabilitation du seuil de retenue d'eau de Goudel. Le gouvernement vient d'autoriser la ratification de cet accord de prêt signé le 5 février 2020 entre le Niger et la Belgique. Ce projet ambitionne d'accroître l'offre en eau à Niamey où le déficit de distribution d'eau est d'environ 43 000 mètres cubes par jour.
Les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. C'est fini entre Michael Sapong et le Rayon Sport. Le joueur ghanéen est accusé d'avoir insulté le président du club rwandais, Sadat Munyakazi, qui l'a licencié. Auparavant, une note de Rayon Sport demandait au joueur d'expliquer les motifs de ses propos injurieux tenus à l'encontre de son président, ce que Sapong n'a pas pu faire. Avant son départ, le club exige du Ghanéen le remboursement d'une dette de 612 dollars représentant les frais d'achat d'un billet de voyage retour de Norvège. En Europe, le championnat d'Allemagne de football est prêt à reprendre le 9 mai, si les autorités donnent leur feu vert, bien sûr. La Bundesliga est le premier des grands championnats européens, tous à l'arrêt depuis la mi-mars, a acté un calendrier de reprise sans spectateurs, compatible avec la volonté de l'UEFA de terminer les championnats nationaux et d'achever les Coupes d'Europe de clubs cet été. La Bundesliga a indiqué avoir obtenu des garanties pour le versement des droits télé d'une valeur de 300 millions d'euros, assurant ainsi les liquidités des clubs professionnels jusqu'au 30 juin. La volonté de disputer les 9 journées restantes reste néanmoins suspendue à l'accord des responsables politiques. En athlétisme, les meetings de la Ligue de Diamants prévus à Eugen ici aux États-Unis le 7 juin et à Paris le 13 juin sont reportés. Ces deux reports s'ajoutent à ceux des 6 premières étapes de la Ligue de Diamants. Le circuit majeur de l'athlétisme mondial dont le coup d'envoi devrait être donné le 17 avril à Doha au Qatar. En ce qui concerne le meeting d'Oslo programmé le 11 juin, les organisateurs de la Ligue de Diamants ont précisé dans leur communiqué qu'une compétition alternative d'athlétisme se déroulerait à la date prévue sans plus de précision. En Angleterre, le début formel de la Ligue de Diamants est repoussé au 4 juillet. Toujours en athlétisme, les championnats d'Europe prévus du 25 au 30 août à Paris sont annulés. Le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, a indiqué avoir tenu compte de l'évaluation des risques telle qu'elle a été présentée par les services de l'État. Il s'agit d'un coup dur financier pour la Fédération française. Un peu plus de 50% des tickets pour le stade Charletti de Paris avaient déjà été vendus pour un budget estimé à 17 millions d'euros. Les athlètes se voient ainsi privés du deuxième grand rendez-vous de l'année après le report des JO de Tokyo en 2021. 1400 participants venus d'une cinquantaine de pays européens étaient attendus à Paris.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Segoudia. Nous passons maintenant à notre dossier du jour. Au Niger, pour assurer la continuité des enseignements scolaires et universitaires suspendus du fait de la pandémie de COVID-19, les autorités envisagent des cours en ligne ou et à la télévision, un défi qui laisse beaucoup d'acteurs du secteur éducatif perplexes dans ce pays où les taux de couverture en matière d'énergie et de connectivité à Internet sont des plus bas. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Le gouvernement, à travers cette option, veut ainsi sauver l'année scolaire. Seulement, la décision pour un grand nombre d'acteurs nécessitait davantage de réflexion.
Moi, je pense que ce n'est pas réel.
Maman Sanda est le responsable d'une ONG qui œuvre pour la qualité de la formation.
On n'a pas fait des études approfondies nous permettant de savoir est-ce que tous les fils de ce pays dispose d'un smartphone pour suivre le cours en ligne sur WhatsApp. Est-ce que tous les fils de ce pays ont les moyens nécessaires de pouvoir créditer leur compte pour pouvoir suivre les cours en ligne?
La plupart des responsables pédagogiques ont reçu les instructions pour prendre les dispositions afin de matérialiser la décision. Les syndicats du secteur ont commencé à protester. Issoufou Arzika est le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger.
La seule solution pour sauver l'année, c'est des cours en présentiel où on a des élèves et des enseignants dans des classes. Toute autre option, en tout cas à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas l'épouser lorsqu'elle ne vient pas juste en supplément. Peut-être pour renforcer, pour faire des répétitions pour les élèves qui ont accès à l'Internet, pour ne pas condamner tout le monde. Mais l'option de valider l'année sur la base des cours faits en ligne, nous ne sommes pas partants en ce qui concerne le SEN. Nous la condamnons et nous attirons l'attention du ministère de faire attention pour ne pas créer d'autres crises.
Au niveau des élèves également, l'on crie à une possible rupture d'égalité. Ider Algabit, responsable de la structure des scolaires et étudiants du Niger.
Il n'est pas question que nous acceptions des groupes WhatsApp, des classes de 40 élèves où nous avons 15 ou 16 qui sont dedans. Nous ne pouvons pas nous regarder à ce qu'on donne cours à 16 élèves sur 40. Nous ne pouvons pas accepter.
Les parents d'élèves aussi estiment que cette option du gouvernement n'est pas la meilleure.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer et que s'ils persistent, je suis convaincu qu'ils vont faire perdre au Niger davantage. Ces maigres ressources, il n'y aura pas d'impact sur le système éducatif. Ils vont créer ce qu'on appelle rupture d'égalité entre les enfants des mêmes pays.
Le taux de pénétration d'Internet du Niger est l'un des plus faibles du continent, 2,10% selon des statistiques de 2017. Aussi, seulement 13% de la population bénéficie de l'électricité selon les responsables de la société en charge de la distribution de l'énergie. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA. Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Burkina Faso, le plus grand marché de Ouagadougou a été rouvert lundi après 3 semaines de fermeture. Les autorités craignaient que le marché ne soit un foyer de propagation du COVID-19. Mais après réouverture, les affaires ne marchent plus, disent les commerçants, pour qui le nouveau dispositif sécuritaire devant les entrées du marché dissuade les clients. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À l'une des entrées du plus grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, 8 heures. Souleymane Sabadogo, vendeur de chaussures depuis 5 ans dans ce marché, doit aujourd'hui se soumettre à certaines conditions avant d'avoir accès à son magasin. En plus du nombre important de policiers, des agents, tous des volontaires en gilet orange avec des insignes Stop Coronavirus, doivent veiller au respect strict des mesures. Lavage de mains, prise de température, un peu de gel hydroalcoolique, le port du masque et le tour est joué. Souleymane peut regagner sa boutique. Ses voisins, c'est de loin qu'il va devoir les saluer.
Ici, là, bon, ça va. Comme il y a maladie, ils ont dit qu'on doit rentrer ici, on doit porter casse-nez et puis on lave les mains. Donc ils ont dit, si tu ne portes pas casse-nez, tu ne rentres pas ici.
Le vendeur de chaussures a dû se tourner les pouces pendant 3 semaines à la maison.
Ces temps-là, ça a été dur.
Souleymane Sabadogo.
Il y a une marchandise qui doit, il y a des modèles même qui démontrent. Donc 2 semaines, 3 semaines comme ça là, on a beaucoup perdu. C'est pas facile.
Depuis l'ouverture du marché, les affaires sont au point mort, disent les commerçants.
Ça va, mais ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de client encore.
Le vendeur de chaussures.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au marché. Donc il y a d'autres même qui pensent que au marché là, il y a une maladie là même, c'est ici.
À quelques pas de Souleymane Sabadogo, Oumarou Guidma, cet étudiant est aussi commerçant. Les mesures sont drastiques selon lui.
Les choses ne vont pas depuis la réouverture. Le problème qui se pose, c'est quoi? Ce sont les conditions, les mesures même vraiment. Les mesures qui sont prises, moi je pense que ça renvoie directement au supermarché. Vous voyez, quand c'est un supermarché, chacun est dans son carré. Mais quand on parle de marché, il y a l'influence. Tant qu'il n'y a pas le frottement même entre les gens, on ne sent pas que c'est un marché. Le marché est vide, il n'y a même pas de clients. On est là, on s'assoit, on cause.
Les conditions sont dures. On ne peut pas vendre, les clients même ça ne rentre pas.
Awa Ilboudo est aussi commerçante.
On ne peut pas exposer les marchandises même pour vendre. Mais si on ne peut pas exposer, non, c'est trop dur. Il n'a qu'à faire un peu. Nous, commerçants, là aussi, va gagner pour manger, pour nourrir notre enfant. Sinon, c'est dur.
Rodwoko, le plus grand marché de la capitale, sinon du pays, fonctionne sous cette forme depuis lundi. Un marché qui permet de faire vivre 500 000 ménages, selon la municipalité. Rodwoko est le marché test. 39 autres marchés de la capitale attendent d'être rouverts, si toutefois les mesures barrières et l'ensemble des consignes sont respectées par les commerçants, selon les autorités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Avec plus de 3500 cas confirmés, l'Afrique du Sud, qui compte 60 millions d'habitants, est officiellement le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19. La population est en confinement strict depuis le 27 mars, afin de tenter d'empêcher la propagation du virus. Pour des millions de Sud-Africains qui gagnaient leur vie au jour, sans possibilité de faire des économies, ce confinement est de plus en plus difficile à tenir. Des mesures de soutien économique et social ont été annoncées. Reportage de Patricia Hur.
Dans le township d'Alexandra à Johannesburg, des dizaines de personnes se sont rassemblées spontanément dans les rues. Elles protestent contre le manque de transparence dans l'attribution des aides alimentaires qui ont été distribuées.
Il y a des caisses de nourriture qui sont données, mais on ne sait pas à qui. Ils choisissent des gens qu'ils connaissent. J'ai faim et je suis en colère. Ils doivent venir dans chaque maison et nous donner à manger.
Pour de nombreux Sud-Africains en confinement strict depuis 4 semaines, la situation devient de plus en plus difficile à tenir. Pour les plus pauvres, une réalité est venue s'ajouter à celle de la peur du virus, celle de la faim.
C'est une urgence. On ne peut pas demander aux gens d'attendre 5 jours, 7 jours sans rien dans le ventre. Ils vont mourir. Pas du Covid, mais de faim.
Des magasins d'alimentation, des camions transportant de la nourriture ont été pillés près de la ville du Cap. Joanie Fredericks, une militante associative dans le township de Mitchell's Plain, s'adresse au chef de l'État dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Monsieur Cyril Ramaphosa, ici dans la communauté, nous sommes très très satisfaits de ce confinement. Mais nous sommes très mécontents de la manière dont il a été planifié. Comment allez-vous nourrir le peuple ?
Le président Cyril Ramaphosa s'est dit conscient de la situation. Mardi, il a détaillé des mesures de soutien supplémentaires. Parmi elles, une augmentation du montant des aides sociales et une compensation pour les travailleurs du secteur informel.
La caisse de sécurité sociale va d'ici quelques jours mettre en place une solution basée sur la technologie pour une aide alimentaire de grande ampleur via des bons et des transferts d'argent afin de nous assurer que cette aide atteigne ceux qui en ont besoin plus rapidement. rapidement et efficacement.
Pour le professeur Julian May, directeur du Centre d'excellence pour la sécurité alimentaire de l'Université du Cap-Occidental, le gouvernement a raison de privilégier la distribution d'argent liquide en utilisant le système déjà bien rodé des allocations.
Nous avons un système de distribution d'argent qui fonctionne généralement bien et qui ne nécessite pas que les gens fassent la queue pour recevoir leur paiement. C'est quelque chose qui peut être plus inclusif et donnera, je l'espère, le sentiment que le gouvernement fait quelque chose pour aider tout le monde.
Un problème cependant, avec ce système, les nombreux travailleurs informels non sud-africains seront laissés à l'écart. Sans source de revenus actuellement, ils font pourtant partie des plus vulnérables. Patricia Huon, Johannesburg pour VOA Afrique.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, défend la décision du président Donald Trump de suspendre le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé pendant 60 à 90 jours. Selon lui, les responsables de l'OMS n'ont toujours pas blâmé la Chine d'avoir omis de partager des informations sur l'origine du nouveau coronavirus. Des experts de la santé estiment pour leur part que le travail de l'OMS est aujourd'hui plus vital que jamais face à la pandémie du COVID-19. Cindy Shane, correspondante de VOA au département d'État, a fait le point dans ce reportage repris ici par Lionel Gahima.
Alors que le nouveau coronavirus continue de faire des ravages dans le monde, le secrétaire d'État Mike Pompeo a accusé la Chine d'avoir caché des informations sur le virus mortel et de même qu'il a critiqué l'Organisation mondiale de la santé pour sa gestion de la pandémie qui a fait plus de 180 000 morts dans le monde depuis son apparition en Chine. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain.
Même après que le Parti communiste chinois ait informé l'OMS de l'épidémie de coronavirus, la Chine n'a pas partagé toutes les informations dont elle disposait. Au lieu de cela, elle a dissimulé le danger de la maladie, n'a signalé aucune transmission interhumaine pendant un mois, jusqu'à ce qu'elle se répande dans chaque province chinoise. Elle a censuré ceux qui ont essayé d'alerter le monde pour empêcher les tests de nouveaux échantillons et elle a détruit les échantillons existants.
Les États-Unis sont le plus grand contributeur budgétaire de l'OMS et les experts mondiaux de la santé estiment que ce n'est pas le moment de couper les fonds. Gavin Yamé, professeur de santé publique à l'Université Duke en Caroline du Nord.
Personnellement, je ne peux penser à rien de plus bizarre et de plus nocif que de geler le financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant cette pandémie. Cela n'a aucun sens.
L'expert souligne que l'OMS fournit des orientations scientifiques aux pays du monde entier, distribue des kits de tests de COVID-19 et des équipements de protection individuelle aux agents de santé. Pour le président Donald Trump, le contribuable américain écrit chaque année un chèque de 400 à 500 millions de dollars à l'OMS contre environ 40 millions de dollars de la part de la Chine. Le secrétaire d'État Mike Pompeo précise que les États-Unis sont en tête dans la lutte contre le nouveau coronavirus avec une assistance de près de 775 millions de dollars à une centaine de pays dans le monde.
Les États-Unis sont la nation la plus généreuse de la planète, l'ont été pendant les trois dernières années, continueront de l'être encore cette année.
L'Organisation mondiale de la santé nie avoir été trop indulgente avec la Chine et souligne que ce n'est pas le moment de lui couper les vivres. Après le désengagement américain, la Chine a annoncé jeudi un nouveau don de 30 millions de dollars à l'OMS, tout en rappelant que la Chine a déjà versé 20 millions de dollars au mois de mars. De son côté, l'Australie demande une enquête indépendante sur la façon dont l'OMS et la Chine ont géré la crise du COVID-19. Le premier ministre australien, Scott Morrison, a même suggéré que l'OMS soit dotée d'experts qui auraient le pouvoir d'aller enquêter dans les pays touchés par le virus afin d'empêcher d'autres pandémies sur le modèle des inspecteurs de l'ONU luttant contre les armes de destruction massive.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sevilla et de Michel Joseph à la mise en œuvre. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.